On le disait un petit peu plus tôt dans l'émission, en jasant entre autres avec Farnell Morissette, il y en a eu des choses aux États-Unis en fin de semaine, comme ça, aucun motadine de chance. C'est fou raide comment il y a des choses qui se sont passées en à peu près 48 heures aux États-Unis, que ce soit les différentes manifestations, que ce soit la fameuse parade militaire et peut-être cette tragédie, meurtre d'une élue locale du Minnesota et de son mari, ensuite chasse à l'homme pour trouver un dénommé Vance Bolter, qu'on a justement, là, la nouvelle est sortie tôt ce matin, qu'on l'avait retrouvé. On va jaser de cette situation-là avec l'ex-enquêteur du SPVQ, vous le connaissez, vous l'entendez régulièrement à Rage Against le matin. Roger Ferland, bon lundi matin.
Bonjour messieurs, bonjour, en forme?
Très, très, très en forme. Merci beaucoup, cher ami. Bien profité de la fin de semaine?
Oui, tout à fait. Très beau week-end. C'est la fête des papas en plus, fait qu'on est plus relax en famille.
En plus, il faut le dire, bonne fête des pères hors retard, Roger.
Merci, vous aussi, gars.
Merci beaucoup.
Max a levé, a fait ça, comme ça, avec le poing dans les airs. Est-ce que Max est un père, un enfant légitime?
Pas à ma connaissance.
Non?
Roger, on va te mettre sur l'enquête, s'il te plaît.
Vas-y. On reviendra là-dessus plus tard.
Et évidemment, bon, il a fait beau, t'es au chalet, t'es en vacances, mais je sais que tu as suivi pas mal de ce qui se passait en fin de semaine côté actualité, cette chasse à l'homme pour trouver un individu, Vance Bolter, qui était le suspect des meurtres d'une élue locale du Minnesota et de son mari. On a appris ce matin qu'on a retrouvé l'individu, le fameux Vance Bolter. Quand on retrouve quelqu'un comme ça, un fugitif, quand il a chasse à l'homme, là, il doit avoir tellement un sentiment de... Comment je dirais... Un sentiment de soulagement qu'on retrouve le suspect d'un meurtre comme ça.
C'était le même mot que je voulais te suggérer, Reg.
Ouais.
Soulagement terrible, parce que tu sais que ce gars-là a des capacités. Tu vois de quelle façon il a orchestré ses meurtres en se déguisant, en se faisant passer pour un policier, mais en plus, en ayant des connaissances, des capacités militaires, le type de personne, le profil qu'il était, c'est extrêmement préoccupant pour les autorités, parce que tu sais que déjà, quand tu vas appréhender ce gars-là, il y a des risques pour les policiers qui vont être en contact avec, qui fassent d'autres victimes. Il y a des connaissances militaires et des techniques qu'il maîtrise. Fait que c'est vraiment tannant. Très grand soulagement. Et tu l'as dit d'entrée de jeu tantôt, ça brasse aux États-Unis en ce moment. Les polarités gauche-droite là sont rendues à l'extrême. C'est pas le fun en ce moment-là. Je les envie pas de minute.
Roger, je suis sûr que je suis pas le seul. Moi, une de mes grandes peurs, c'est ce genre de situation-là. Que quelqu'un qui a des intentions meurtrières se déguise en policier, parce que lorsque tu es habillé comme force de l'ordre, tu as accès, là, je veux dire, les gens vont te faire confiance. Donc, tu sais, pour moi, c'est juste, c'est pas pensable, c'est juste tellement inquiétant, voire épeurant, ce genre de situation-là.
Oui, c'est inquiétant. Et c'est des stratégies en ce moment qui sont même utilisées par certains groupes criminels. On l'a pas crié sur tous les toits, là, mais dans les tensions importantes qu'il y a en ce moment entre les gangs de rue, les BFM, puis les Hells, ils se sont amusés à se déguiser, dans certains cas, en véhicule fantôme qui interceptait, en simulant qu'il était un policier. Alors, t'es capable souvent de gagner la confiance des gens en leur disant « Hey, on est policier, on vient faire ta affaire. » Les gens embarquent avec d'emblée, puis après ça, ben ils se ramassent que oui, puis ils sont séquestrés. C'est le genre de situation où il faut absolument éviter, parce que ça pourrait facilement miner la crédibilité du public après ça dans l'identification pour nous autres. Puis ils font des interventions quand ils font des frappes en ce moment aussi, les criminels, en simulant les interventions qui ressemblent à nos interventions policières quand on fait une frappe urgente. Alors c'est drôlement préoccupant. Il faut que ça cesse, puis il faut qu'on retire encore là souvent le plus d'armes à feu possible de notre rue, parce que c'est souvent ça qui est la facilité encore là de la deuxième étape, là, d'avoir des gens qui peuvent facilement se faire passer pour quelqu'un qui ressemble à une police.
Roger, quand j'ai vu cette chasse à l'homme-là se terminer au Minnesota, l'endroit même où le meurtre avait eu lieu, ça m'a fait penser à la chasse à l'homme qui a eu lieu en 2013 au marathon de Boston où on avait retrouvé justement une des personnes qui avait fait cet attentat-là dans la région de Boston 48 heures plus tard. Est-ce que tu traces des similitudes justement entre les deux événements?
Ben, c'est en fait que quand un événement comme ça survient, il mobilise tout le personnel policier possible sur place. Il essaie de cerner des périmètres pour empêcher la personne de sortir déjà en partant du périmètre. Alors, il est quand même fréquent que tu vas retrouver dans le même périmètre cette personne-là. Mais essaie de mettre tes comme on dit souvent, tes périmètres étanches puis assez grands pour être sûr de l'avoir à l'intérieur. Et de là, après ça, tu ratisses l'intérieur de ton secteur de façon méthodique. Là, on voit qu'ils ont utilisé des drones. Tu sais, avant, on avait juste hélicoptère, avion, quand c'était par les airs. Mais sinon, tu étais au sol. Mais là, les drones ont dû être beaucoup utilisés dans des circonstances comme ça parce que ça empêche le contact humain direct avec. Puis, ben, qui tire sur le drone, c'est déjà une chose. Mais qui tire sur un humain ou quelqu'un dans l'hélicoptère, c'est d'autres choses. Tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça. Mais très souvent, oui, si tu as bien cerné, tu as fermé tes périmètres, tu risques de retrouver les personnes dans les secteurs en question. Pour ça que, au début, c'est le travail policier, mais après ça, quand tu fais une alerte médiatique, tu informes le public, là, le public t'aide à le retracer, puis à retracer les gens dans ces périmètres-là. Fait que c'est assez fréquent que ça se produise comme ça quand tu as bien bouclé tes secteurs.
Oui, quand on apprend en plus, Roger, que l'individu avait une liste de 70 noms là, de victimes possibles, la bonne nouvelle qu'on l'ait retrouvé, puis on l'a arrêté aussi, là.
Tout à fait, exactement, parce que il était installé pour faire du dégât pas mal, à ce que je comprends. Ils ont sûrement, par contre, maintenant continué à enquêter ce gars-là, le profil de ce gars-là. Est-ce qu'il y a des amis? Il a travaillé en équipe? Y a-t-il un réseautage d'autres personnes qui peut continuer à faire d'autres actions? Sûrement que ça a amené une bonne inquiétude chez des gens dans les partis politiques en ce moment aussi.
Oui, plus près de chez nous, Roger, on a pu lire excellent dossier, puis c'était à la une du Journal de Québec en fin de semaine, chasse aux fugitifs ici au Québec, et qu'on a une stratégie unique et particulière ici au SPVQ. Peut-être nous expliquer un petit peu c'est quoi la stratégie et la technique qu'on utilise, et comme deuxième question, est-ce qu'on devrait, vu le succès de cette tactique et technique-là, la copier ailleurs en province?
Ben oui, effectivement, c'est quelque chose qui devrait être modélisé un petit peu, là, c'est clair. En fait, le principe est simple, c'est que ils ont dégagé un enquêteur de ses tâches normales, un enquêteur aussi qui avait des connaissances un peu en enseignement criminel, qui avait facilité d'avoir des contacts avec les gens, des bonnes communications de façon at large, mais ils ont dit, on te dégage, toi maintenant, tu travailles plus en enquête directe, mais tu vas essayer de trouver les gens qu'on ne retrouve plus, nos fugitifs. Puis très souvent, en mode enquête, on est, en 20-80. On travaille 20 % d'efforts pour avoir 80 % de résultats. Okay. Mais quand tu arrives, parce que 20 % d'efforts et de coûts, argent et tout ce que ça représente, tu essaies de travailler en fait de façon le plus en gros possible. Mais après ça, il faut t'aller dans la précision. Et il faut que tu dégages des gens si tu veux être capable de faire ça, parce que au lendemain matin, sur ton bureau, quand tu as réussi surtout à avoir un mandat d'arrestation contre quelqu'un, mettons, tu as trouvé l'identité, tu sais c'est qui, tu l'arrêtes, tu sais pas tu l'arrêtes, mais tu vas voir le procureur de la couronne, tu donnes ton dossier, ils vont soumettre ça, puis ils disent, OK, c'est beau, vous avez le droit d'aller l'arrêter. OK, parfait, il est où maintenant, ce gars-là? Mm-hmm. Là, il est pas nécessairement facilement trouvable. Alors, la grande difficulté après, le lendemain matin, les patrons te redonnent encore des dossiers d'enquête. Ils te redonnent des nouveaux dossiers. Alors, tu n'as plus le temps de le rechercher en te disant, ben, Scarac, au moins, lui, on sait qu'on peut l'arrêter. Tout le monde peut l'arrêter. Ce qui est souvent l'affaire de tout le monde devient l'affaire de personne. C'est qui ce gars-là? Où est-ce qu'il se cache? Où est-ce qu'il se trame? C'est pour ça que, en donnant cette tâche-là à quelqu'un dédié en ce moment, en investissant là-dessus, là, soyons clairs, là, la raison pour laquelle beaucoup de services de police ne le font pas, c'est que ça demande des coûts, puis ça rapporte pas d'argent au départ. Tu te dégages du monde qui va prendre le temps d'appeler, de contacter des gens. On s'entend, les banques de données policières sont souvent faites au départ, mais après ça, ça prend des techniques plus complexes un peu. On fait-tu géolocalisation du cellulaire? On regarde-tu ses cartes de crédit, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? On regarde-tu s'il fait des retraits bancaires? On regarde-tu s'il parle à sa famille? C'est toutes des démarches d'enquête qui vont être généralement assez coûteuses, qui ne rapporte pas directement sur le coup. Par contre, on se rend compte que au niveau de la confiance du public, au niveau du respect des victimes qui eux autres attendent des résultats, au niveau des familles souvent qui recherchent de retrouver leur personne, là on gagne beaucoup puis c'est très extrêmement efficace. Fait que je pense qu'on se doit de travailler là-dessus pour une justice efficace au final. Fait qu'ils ont, ils ont dégagé quelqu'un à la Ville de Québec en ce moment, au service de police, qui fait un excellent boulot. Puis que oui, je pense que ça sera répété à plus grande échelle, dans le même principe que les cold cases à la Sûreté du Québec. T'sais, on travaille des dossiers de meurtres non résolus. Ouais. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, au moins pour donner des réponses, d'essayer de trouver de quoi. Mais ça, c'est pareil.
Roger, en terminant, est-ce que on peut penser que la prochaine cible du SPVQ sera le fameux Hall Boivin, maintenant qu'on a mis la main sur Dave Picturmel et que justement le détective là, Laurent Gaudreau semble faire un excellent travail?
Ben, c'est une possibilité, mais qui, je pense pas qu'à court terme va arriver. Je te dis pourquoi. Ouais. C'est que après ça, c'est ton champ de compétences et de territoire. Pas de compétences, c'est ton champ de territoire. Laurent, en ce moment, travaille pour la Ville de Québec. Alors, de base, il y a un paquet de dossiers à la Ville de Québec où est-ce qu'on a besoin de lui. Hall Boivin est un individu qui est recherché, mais il est recherché par les gens du Saguenay un peu plus, territoire sorti du Québec, territoire policier de Chicoutimi. Alors là, on est dans, oups, c'est pas ton champ de compétences, c'est pas sur ton terrain. Mmh. Alors, c'est un petit peu ça qui limite. Mais il faut que des gars comme Laurent puissent être mis à contribution, je pense, pour partager les contacts, les connaissances qu'il y a avec d'autres gens à l'extérieur et vice-versa en ce moment, parce que on s'entend, là, il travaille pas tout seul, ce gars-là. Là. Il y a un gros travail d'équipe, son réseautage et les contacts qu'il y a autour de lui. Mais la façon de faire devrait être copier-coller, ça c'est clair en ce moment, dans d'autres services de police, parce que Hall Boivin fait du dégât en ce moment. Ça, c'est il n'y a pas de doute là-dessus.
Roger Ferland est ex-enquêteur du SPVQ. Roger, merci beaucoup pour ton temps ce matin, très apprécié.
Bonne journée à vous, monsieur, et aux auditeurs de Québec, je vous salue.
Salut!
Salut, bonne journée, Roger!
Toujours un plaisir de prendre des nouvelles de Roger Ferland et jaser de autant de nouvelles aux États-Unis, là, qui a fait énormément jaser, et une bonne nouvelle plus près de chez nous avec l'SPVQ qui font un excellent travail avec la recherche et la chasse aux fugitifs.
Ah oui, les procédures sont tellement bien établies aux États-Unis. Quand ils nous parlaient de périmètre, là, ça m'a impressionné. On érige immédiatement un périmètre pour le garder à l'intérieur et là, tranquillement, c'est la traque, un peu comme un chasseur avec sa proie. On le traque, on l'amène dans un raccoin et on le coince.
Les employés d'entretien du RTC ont voté à 100% pour un vote de grève. On va l'utiliser quand? Est-ce qu'on va y aller de façon stratégique et l'utiliser pendant le fameux festival d'été de Québec? On va jaser de tout ça avec notre spécialiste en négociation syndicale, Marc Ranger, après la pause.
Jusqu'à